Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Au programme de ce nouveau cycle, le projet Génome Humain, le Human Genome Project, que nous appellerons PGH, pour faciliter l'écoute de ce podcast. Le XXe siècle fut un siècle incroyablement riche pour la génétique. Il commença fort avec la redécouverte des travaux de Mendel au début des années 1900. Il fit ensuite un énorme bond en avant dans les années 50 avec l'élucidation de la structure en double hélice de l'ADN par Crick et Watson, sans oublier bien sûr l'apport fondamental de Rosalind Franklin et d'autres. Il se termina avec l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire des sciences, le projet Génome Humain. Selon Lisa Gannett, auteure de l'article « The Human Genome Project », et je cite, « Le PGH fut un projet de recherche en biologie moléculaire annoncé comme l'étape initiale et nécessaire pour atteindre une compréhension complète de la nature héréditaire de l'humanité. » Fin de citation. Officiellement accompli en 2003, la fin du projet fêtera donc bientôt son 20e anniversaire. Si nous avons décidé de nous y intéresser le temps de quelques épisodes, c'est parce que ce projet était donc, à l'époque, le plus ambitieux jamais pensé dans l'histoire des sciences. Son déroulement est en plus rempli de rebondissements et son histoire touche à de nombreux sujets tels que la collaboration internationale, la course entre la recherche publique et la recherche privée, ou encore la bioéthique. Commencé en 1990, il aura fallu la participation de centaines de scientifiques et plus de 10 ans pour en voir le bout, permettant d'immenses progrès dans la compréhension de ce qu'est le vivant. Une quête longue et ambitieuse pour séquencer les 3 milliards de paires de bases du génome humain. Une ambition folle qui s'est principalement concentrée sur les connaissances que la science pouvait apporter à notre compréhension des maladies humaines. Ce n'est qu'avec le recul qui est le nôtre qu'il est clair qu'en plus d'accélérer considérablement la recherche biomédicale, le PGH a lancé une nouvelle façon de faire et de penser la science. Son succès a en effet permis de briser la tradition d'équipes de recherche isolées qui tentaient de répondre à un petit ensemble de questions scientifiques. Avec le PGH, une nouvelle ère était née. Dans ce premier épisode, nous nous intéresserons aux prémices du projet, à son financement et à sa remarquable mise en route, où presque tout a été pensé. Allez, c'est parti. Le PGH ne s'est évidemment pas lancé tout seul. Il aura fallu des années pour acquérir le financement, les autorisations et avancer sur la création d'une collaboration internationale et des organismes qui allaient encadrer le projet. Trois hommes auront une importance fondamentale dans la réflexion menant à ce projet pharaonique, Robert Sinsheimer, René Dulbecco et Charles Delisi. Tous les trois, au milieu des années 80, ont l'idée, ou plutôt l'intuition, que séquencer le génome humain dans son entièreté est largement possible et que cela permettrait de faire avancer leurs domaines respectifs. Sinsheimer, alors président de l'Université de Californie à Santa Cruz, a 30 millions de dollars à dépenser au milieu des années 80. Son université s'était en effet vue allouer cette somme pour construire un télescope qui ne verra finalement pas le jour. Pour lui, il est évident que cette somme doit servir à séquencer le génome humain dans son entièreté. René Dulbecco, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1975 pour ses travaux sur les virus oncogènes et chercheur au Salk Institute, milite pour un moyen de mieux comprendre les origines génétiques des maladies, avec un focus particulier bien évidemment sur le cancer. Et Charles Delisi, directeur des programmes de recherche sur la santé et l'environnement du département de l'énergie des États-Unis, le DOE, pense que cette entreprise permettrait de détecter les mutations liées aux radiations, une question d'intérêt pour le DOE depuis les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Si ces trois scientifiques de premier plan se posent cette question à peu près au même moment, c'est que la réalisation de ce projet était également possible depuis peu. Comme nous le précise Lisa Gannett, je cite, un tel projet était devenu techniquement faisable grâce aux progrès réalisés au cours des deux dernières décennies. Au début des années 70, grâce aux technologies de recombinaison de l'ADN, à la fin des années 70, grâce au séquençage de l'ADN et aux nouvelles techniques de cartographie génétique, et dans la première moitié des années 80, grâce à la synthèse et au séquençage automatisé de l'ADN. Fin de citation. Loin d'être les seuls à trouver cette idée incroyablement prometteuse, les trois scientifiques sont rapidement soutenus par de nombreuses autres figures de renom, comme Victor McCusick, que nous avons évoqué lors de notre cycle sur les cellules ELA, et un certain James Watson, que nous avons lui aussi largement évoqué dans notre cycle sur Rosalind Franklin. Très vite, l'enthousiasme entoure le projet et les soutiens sont nombreux. Mais l'ampleur de la tâche fait peur à certains qui mettent rapidement en avant les potentielles limites du projet. Des inquiétudes sont en effet exprimées quant à la nature quelque peu barbante du séquençage à grande échelle. On doute aussi de l'approche très onéreuse du projet, craignant que cette approche Big Science ne puise trop dans les ressources de projets plus petits et plus prometteurs. On assiste ici, en fait, à un tournant dans l'histoire de la biologie. C'est le début de la fin pour les recherches indépendantes réalisées par de petites équipes de chercheurs. Et une autre inconnue fait également débat. Qu'arriverait-il si la connaissance de la séquence génétique se révélait insuffisante pour produire des connaissances sur la fonction des gènes ? Autant de questions qui permettent de mettre en place deux comités qui auront pour tâche de déterminer si l'objectif final est bel et bien réalisable. En septembre 1986, le Conseil national de la recherche aura donc pour mission de déterminer si l'entreprise est réalisable d'un point de vue scientifique, et l'Office d'évaluation des technologies se penchera sur les questions de politique publique. La particularité du projet génome humain est qu'il sera en effet financé par des fonds publics, et l'on sait bien à l'époque qu'il faudra que les politiques publiques évoluent presque aussi rapidement que la science si le projet veut être un succès. En 1988, les deux comités présentent leurs conclusions. Grosso modo, c'est possible, mais le budget sera colossal. Mais les fonds, eux, sont déjà en train d'être alloués par les différents acteurs. En 1986, le département de l'énergie des États-Unis, le DOE, lance un plan de 4 ans et délègue 4,5 millions de dollars au projet. Le Congrès américain, à travers certains de ses représentants, soutient également le projet en proposant une loi, notamment introduite par le sénateur du Nouveau-Mexique de l'époque, Pete Domenici. En 1987, un autre acteur majeur de la vie américaine, ce que l'on appelle les NIH, les Instituts Nationaux de la Santé, se joint au projet. James Weingarten, alors directeur, apporte son soutien. Le Congrès apporte finalement un financement de 10,7 millions de dollars et les NIH de 17,2 millions de dollars pour l'année 1988. Les deux organismes publics signent en cette même année un protocole d'accord. Le projet sera lancé officiellement le 1er octobre 1990, avec une date de fin prévue en 2005. Le coût total est estimé à plus de 3 milliards de dollars. Ce sera James Watson, prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1962, et alors directeur du laboratoire de Cold Spring Harbor, qui dirigera le projet. Un an plus tard, en octobre 1989, Watson prendra la direction du Centre national pour la recherche sur le génome humain, tout fraîchement créé. Pendant près de 4 ans, en plus de piloter le projet, Watson se transformera en véritable diplomate scientifique, charmant le Congrès et apportant de nombreux financements. Au-delà de l'aspect purement scientifique, de nombreuses questions éthiques et sociales se posent à l'aune du projet. Watson lui-même confirmera à un journaliste qu'une partie du budget serait dédiée à ces questions dès 1988. Cette réflexion amène à la création du groupe de travail sur les implications éthiques, légales et sociales qui commença le travail dès septembre 1989. Le groupe identifie 4 axes prioritaires. La qualité et l'accès à l'utilisation des tests génétiques, l'utilisation équitable des informations génétiques par les employeurs et les assureurs, la confidentialité des informations génétiques et l'enseignement public et professionnel. Ce qui est assez remarquable dans le projet Génome Humain, et ce même avant qu'il ne débute officiellement, c'est que la plupart des éventualités avaient été adressées. Les esprits les plus brillants de la biologie américaine avaient été sollicités, et des efforts remarquables avaient été mis en place pour s'assurer que le projet ne se transforme pas en fiasco. À l'heure de son lancement officiel, il n'y avait plus qu'à suivre les recommandations des différents comités. Dans les labos, la priorité est donc donnée à la cartographie. Le séquençage viendra après, et je cite Lisa Gannett qui nous explique parfaitement le processus. Les scientifiques du HGP ont cherché à construire deux types de cartes. Les cartes génétiques ordonnent des marqueurs polymorphes de manière linéaire sur les chromosomes. L'objectif est de placer ces marqueurs de manière suffisamment dense pour que les relations de liaison puissent être utilisées pour localiser les régions chromosomiques contenant des gènes intéressants pour les chercheurs. Les cartes physiques ordonnent des collections de fragments d'ADN clonés qui couvrent le génome d'un organisme. Ces fragments peuvent ensuite être répliqués en quantité pour être séquencés. Fin de citation. Alors, pour tenter de faire simple, les cartes génétiques permettent de connaître la position de gènes et de différents marqueurs sur un chromosome, un peu comme les villes sur une carte routière. Ces cartes ont été absolument essentielles pour établir sans erreur la tant convoitée carte physique du génome humain. En effet, comme nos chromosomes ont dû être morcelés pour être séquencés, les scientifiques ont ainsi obtenu une espèce de puzzle qu'il fallait assembler dans le bon ordre du début à la fin de chaque chromosome. Or, c'est grâce aux marqueurs dont on retrouve la trace sur les fragments séquencés qu'on a pu commencer à les positionner sur la carte génétique et donc débuter la carte physique. Pour les morceaux où il n'y avait pas de marqueur, pas de panique. Les chromosomes ont été coupés, non pas comme on coupe une baguette de pain, mais en générant plein de morceaux différents à partir de plusieurs copies de ces derniers. Ainsi, ces différents segments d'ADN avaient des séquences en commun, et cela a donc permis de les assembler les uns après les autres et de faire progresser la carte physique. Pour les 5 premières années du programme, un plan était clairement établi par les NIH et le DOE. L'objectif était de rendre le séquençage moins coûteux et donc plus efficace. L'ambition était notamment de réduire les coûts de séquençage à 0,5$ par base et de compléter 10 millions de bases d'ADN contiguës, soit à peu près 0,3% du génome humain. La tâche est immense, mais elle est néanmoins facilitée par certains progrès technologiques récents. Pour la cartographie physique, les chromosomes artificiels de levure, les YAC, introduits en 1987, permettaient d'inclure des fragments d'ADN plus grands et de diminuer ainsi le nombre de séquençages nécessaires pour obtenir la carte physique d'un chromosome. De plus, une nouvelle classe de marqueurs génétiques est également identifiée en 1989. Ce sont les répétitions microsatellites et ils deviennent rapidement des marqueurs de choix du fait de leur grand nombre au sein de notre génome. Environ 10% de notre génome est constitué de séquences répétées. Ce sont soit des mini-satellites, des morceaux compris entre 9 et 80 bases qui se répètent, ou des micro-satellites constitués d'un motif de 2 à 5 bases. Leur grand nombre permet ainsi de mieux détailler les cartes génétiques et donc de faciliter l'élaboration des cartes physiques. Et c'est sur ces explications quelque peu techniques que nous terminons cet épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires. Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour évoquer les premières difficultés du projet, le développement de la collaboration internationale et l'arrivée d'une figure controversée dans cette histoire, Craig Venter. Enfin, si la fin de cet épisode s'est révélée assez technique, pas de panique, tout deviendra beaucoup plus clair lors de nos prochains épisodes. À très vite !